Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui nous parlerons de la Libye, comment faire autrement. La Libye est un État artificiel devenu indépendant en 1951 sous l'égide de l'Angleterre qui ne voulait absolument pas que le Fezzan, région riche en pétrole, ne tombe sous une influence française. Le pétrole avait été découvert avant-guerre par un Français, Conrad Killian, mystérieusement assassiné après la guerre. Le général Leclerc, qui s'était illustré dans la région et qui s'intéressait beaucoup à cette province libyenne, fut aussi victime d'un curieux accident d'avion en 1947. La voie était donc libre pour les Anglais, qui installèrent par la suite le roi Idriss sur le trône. Idriss appartenait à la confrérie des Sanoussis, qui sont des musulmans fanatiques, déjà utilisés par les Anglais durant la Première Guerre mondiale, pour essayer de nous chasser du Sahara. C'est pour cela qu'ils assassinèrent le père de Foucault. Comme je vous l'ai dit, la Libye est un État très artificiel composé de trois grandes provinces. La Tripolitaine à l'ouest, la Cyrénaïque à l'est, le Fezzan au sud. La Cyrénaïque, d'où est partie la révolte, est tournée vers l'Égypte. Cette région est en rébellion larvée depuis très longtemps, car elle n'a jamais accepté le renversement du roi Idriss par le jeune lieutenant Kadhafi, originaire de la Tripolitaine, plus précisément de Sirte, en 1969. En 1980, un soulèvement militaire avait éclaté à Tobouk, soulèvement durement maté par Kadhafi. On aura remarqué que dès le début de la rébellion, les insurgés de Benghazi ont repris d'ailleurs le drapeau du roi Idriss. Après son arrivée au pouvoir, Kadhafi commença par s'allier aux Russes. Après la chute de l'URSS, il se retrouva singulièrement orphelin. Il se rapprocha alors des anglo-saxons. Il paya très cher le prince Bandar Ben Sultan, ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington, pour que celui-ci établisse des contacts avec l'administration américaine, ce qui fut rendu possible par l'intermédiaire de Nelson Mandela. Restait l'attentat de Lockerbie qui avait causé la mort de 270 personnes lors d'un vol de la Paname le 21 décembre 1988. Depuis 1991, des sanctions avaient été prises contre la Libye après que Kadhafi ait refusé de livrer deux de ses agents accusés d'avoir organisé ce crime. Ils furent livrés par Kadhafi en 1999 et libérés rapidement, l'un en 2001, l'autre un peu plus tard. En 2003, Kadhafi indemnisa les familles des victimes à hauteur de 2,7 milliards de dollars. La voie était-elle libre pour la réconciliation? Pas encore, car Kadhafi s'était mis dans la tête de construire des centrales nucléaires, ce qui allait à l'encontre de la politique israélienne, et donc de la politique occidentale, entre guillemets bien sûr. Peu après l'invasion d'Irak, des conversations commencèrent avec des émissaires secrets de Kadhafi afin que la Libye abandonne son programme d'armes de destruction massive, en contrepartie d'une normalisation des relations avec les États-Unis et avec l'Angleterre. Quelques semaines plus tard, Tony Blair et George Bush annonçaient que Kadhafi acceptait les inspections de l'AIEA. Il faut dire qu'entre-temps, le sort de Saddam Hussein l'avait fait réfléchir. En fait, il y avait déjà plusieurs années que Blair, par l'intermédiaire du prince Mandar et de Mandela, avait demandé que la British Petroleum et la Royal Dutch exploitent les gisements de gaz et de pétrole libyens. C'était le prix à payer pour la libération d'Al-Megrabi, l'un des auteurs de l'attentat de Lockerbie. En mars 2004, Blair fut le premier chef d'État à aller voir Kadhafi et une chambre de commerce britannique, britanno-libyenne plus exactement, fut créée à Londres. En 2007, Blair alla une seconde fois en Libye. Pendant ce temps-là, une société d'investissement cornaquée par Jacob Rothschild était fondée. Son fils Nathaniel lui succéda en 2009. Celui-ci noua des liens étroits avec Saïd al-Islam Kadhafi, qui un jour devait succéder à son père. Ce dernier d'ailleurs acheta son titre de docteur à la London School of Economics en donnant 15 millions de dollars à cette université. Désormais, des dons très importants furent faits par le dictateur et par son fils à la London School of Economics. 1 500 000 livres en juin 2009, entre autres, bien sûr, car en réalité, ce furent des millions de livres que la London School of Economics a reçus. Mais alors, que s'est-il passé pour que les Anglais et la plupart des nations européennes exigent le départ de Kadhafi et surtout réussissent à faire voter une résolution du Conseil de sécurité qui, sous prétexte d'interdire aux avions libyens de bombarder les villes rebelles, permettent en fait toutes les opérations. Vous aurez deviné, en voyant Bernard-Henri Lévy se substituer au ministère des Affaires étrangères pour annoncer la reconnaissance du comité insurrectionnel de Benghazi comme le gouvernement légal libyen, d'où vient le coup. BHL ne s'est jamais inquiété, par exemple, du sort de Gaza. Sarkozy et les Européens se sont donc inclinés devant les diktats du gouvernement israélien et même Obama, qui n'était pas enthousiaste du tout pour cette opération, a dû céder aux pressions amicales du lobby qui n'existe pas, mais qui dirige tout. Évidemment, cela s'est fait avec l'aval de l'Arabie Saoudite et des Émirats, qui, comme chacun sait, mangent dans la main des américano-socialistes. Et sont des exemples de démocratie. On va donc voir la destruction de la Libye. C'est là une brillante opération qui va nous valoir la haine des masses arabes et le déferlement vers l'Europe de millions d'Africains. Car n'oublions pas que la Libye était le verrou essentiel qui empêchait les immigrés de gagner nos pays. Ce verrou a sauté pour la plus grande joie des États-Unis et d'Israël, qui ne rêvent que de voir l'Europe se métisser et s'affaiblir. Comme en Irak, comme en Afghanistan, nous allons faire là une belle opération au nom des droits de l'homme qui devrait plutôt s'appeler le droit des cocus. Au revoir mes chers auditeurs et à bientôt.